Chapitre 2, le corps quantique. La confirmation des pouvoirs d'auto-guérison.
De nombreuses médecines alternatives ont complètement disparu avec le temps, et pourtant, elles pourraient contribuer largement à la médecine moderne d'aujourd'hui. Les anciens médecins indiens et amérindiens étaient de grands sages et croyaient que le corps était créé à partir de l'esprit conscient. Ils pratiquaient une médecine fondée sur l'esprit conscient et leur façon de traiter la maladie dépassait la barrière corporelle pour aller au cœur même de la conscience. La recherche de Maharishi, quant à elle, était axée sur l'ancienne Ayurveda et sa capacité de guérir les malades par des procédés immatériels. Le docteur Deepak Chopra, sur une demande de Maharishi, devait expliquer comment, d'une manière logique, fonctionnaient les pouvoirs holistiques. Le terme « holistique » semble faire peur à beaucoup de personnes qui le relient à la magie noire ou à la sorcellerie, même de nos jours. Or, le mot « holistique » signifie simplement que l'approche du problème inclut l'ensemble du corps et de l'esprit. La plupart des guérisons ont toutes une origine mystérieuse, soit la foi, la rémission spontanée ou soit encore l'utilisation efficace de placebo. Peu importe le chemin emprunté, l'important, c'est le but atteint, la guérison. L'esprit conscient est doté d'une grande puissance que la plupart d'entre nous ignorons. Par manque de connaissances, nous n'utilisons pas notre pouvoir réel. Lorsqu'une plaie se cicatrise normalement, lorsque l'organisme répare un os cassé, pourquoi cela ne serait-il pas un miracle? Le corps lui-même a des ressources inexplorées que même la science ne peut pas du tout expliquer. Et quand elle tente de le faire, c'est de manière imparfaite. L'auto-guérison est considérée encore aujourd'hui comme un miracle, alors que guérir une maladie, selon l'opinion générale, dépend d'une force divine extérieure à l'esprit de l'homme, d'une volonté extrême de vivre ou de raison qui y incite, et cela peu importe la maladie et ses conditions. Cela implique qu'il y a deux sortes de guérison, l'une normale et l'autre anormale, ou du moins exceptionnelle. De manière surprenante, l'Occident a une vision scientifique de l'univers qui rejoint la vision des anciens sages de l'Inde. C'est un voyage qui brise toutes les barrières et ignore les obstacles culturels. Il y a un grand malaise qui existe dans le monde médical concernant la médecine corps-esprit. Si le médecin avait le choix entre une idée nouvelle et un composé chimique connu, il donnera sa préférence aux produits chimiques qui ne lui demandent aucune réflexion, de même qu'aux patients. S'il arrive que les produits utilisés sont inefficaces, alors le médecin, comme le patient, est confronté à une situation de remise en question sur le cas, voire à trouver une autre solution pour la guérison. Personne n'échappe au processus de vieillissement. Toutefois, les déclins naturels liés à l'âge dépendent des capacités de l'esprit. Tant et aussi longtemps qu'une personne sera active mentalement, elle restera aussi intelligente qu'elle était dans sa jeunesse et en pleine maturité. Des études ont démontré qu'une grande motivation et une forte détermination, pourvu qu'elles soient positives, ont pour effet de prolonger la vie. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux se battre que de renoncer. Et cette démarche ne se fait que volontairement par le malade lui-même en mettant en œuvre son propre mécanisme de pensée. Attention, parce que si vous éprouvez des pensées négatives à l'égard de la maladie qui vous habite, telles que la colère, la crainte, la peur, l'angoisse et l'anxiété, elles auront un pouvoir néfaste. C'est-à-dire qu'au lieu que votre corps crée des cellules bienfaisantes pour votre guérison, vos cellules resteront infectées jusqu'à ce que mort s'en suive. L'esprit domine la matière, sauf lorsque celle-ci domine l'esprit. Aucun des éléments qui alimentent cette polémique n'a pu être tiré au clair. En conséquence, l'univers subjectif de l'esprit demeure une très grande puissance capricieuse dans la capacité de guérir. Elle a ses lois et celles-ci doivent être respectées. En raison de son côté matérialiste, une bonne partie du corps médical serait trop heureuse de pouvoir prouver que seuls les agents chimiques sont les véritables facteurs de la guérison. De toute évidence, on ne peut absolument pas ignorer le rôle de l'esprit conscient dans le processus des fonctions normales du corps. L'opération nécessite la contribution de l'esprit du demandeur, qui sait ce qu'il est en train de faire. Bien que la médecine, depuis presque toujours, persiste à croire que le corps, tel une machine autonome, est son propre titulaire, la présence d'une personne, par exemple au volant d'une voiture, est nécessaire. Dans le corps, l'esprit conscient est le maître d'œuvre de notre organisme. Dans le cas contraire, la chimie de l'organisme serait un mélange de molécules flottantes, alors que l'ensemble est d'évidence régi par un autre système incroyablement précis. Après des années de recherche, on a réalisé que le cerveau du demandeur, le penseur lui-même, était doté d'une très grande puissance, qu'il était doué d'une intelligence qui le poussait à vivre, à bouger et à penser. La maladie est l'expression d'un conflit qui divise un être humain. Toute maladie est psychosomatique. Le corps est le reflet de la pensée. La guérison survient une fois le conflit reconnu et résolu. La santé règne alors en reine sur le corps, incapable de réorganiser une vie chaotique. La médecine ne fait que rafistoler un dégât pour une période indéterminée, incapable qu'elle est d'agir sur la matrice désordonnée. Elle ne guérit pas, elle traite et soigne avec l'espoir de guérir. Les neurotransmetteurs sont des coureurs qui partent du cerveau et transmettent à chacun de nos organes les informations suivantes: les émotions, les désirs, les souvenirs, les intuitions et les ambitions. Aucune de ces réalités n'est confinée au cerveau seul. Chaque cellule est touchée par les neurotransmetteurs. Quelle que soit la forme de la pensée, les agents chimiques doivent nécessairement l'accompagner, et sans eux, aucune pensée ne pourrait exister. Penser, c'est donc réaliser une chimie cérébrale qui engendre une cascade de réactions dans tout l'organisme. Notre esprit n'est pas lié seulement au cerveau. Il communique avec chaque élément de notre corps et se projette partout à l'intérieur de celui-ci. Le corps pensant est bien différent de celui que la médecine traite actuellement. Nos organes communiquent entre eux au moyen d'un code aussi complexe que notre langage. Nos poumons, notre cœur, nos reins pensent et parlent aussi comme nous, dans leur propre langage. Les cellules ont à leur disposition des milliers de substances chimiques parmi lesquelles elles font des choix, déterminent des quantités et envoient à tel ou tel organe. La grande question, encore une fois, est: qui décide du choix de tel ou tel composant? La réponse est l'esprit. Pour la première fois dans l'histoire, la science reconnaît que l'esprit possède une base solide sur laquelle s'appuyer. Auparavant, elle affirmait que nous étions des machines ayant d'une façon ou d'une autre appris à penser. On commence à admettre maintenant que nous sommes des pensées qui ont appris à créer des machines. La différence entre la pensée et les neurotransmetteurs, c'est que ces derniers sont matériels, alors qu'une pensée est intangible, insaisissable. Par contre, les neurotransmetteurs sont matériels, bien qu'ils soient infiniment petits et que leur durée de vie soit très courte. Le rôle des neurotransmetteurs est de s'harmoniser avec la pensée. Dès le premier jour de notre existence, nous entrons dans le processus du vieillissement, lequel est régi par notre conscience. Personne n'y échappe. Si nous acceptons la pensée sociale et collective qui circule, qui influence l'ensemble de notre société, il est évident que la maladie aura raison de nous. Attention à la façon dont vous pensez. Souvenez-vous, vous avez une pensée personnalisée. Qui plus est, personne n'est obligé de mourir malade. On peut tout aussi bien mourir en parfaite santé. Ceci étant, notre vieillissement peut être programmé au moyen de la gestion de votre pensée. En vous programmant vous-même à cette fin, que les générations précédentes ont toujours fait, le but visé devient réalité. Ce genre de programmation ne repose pas simplement sur la pensée ou la croyance. une attitude positive, une vivacité mentale, une volonté de vivre et d'autres traits psychologiques peuvent prolonger la vie. De cette façon, les personnes âgées peuvent parvenir à rompre le conditionnement social auquel les astreignent les autorités sociales. Changer le processus de vieillissement lui-même est possible. Cela dépend de votre intention et surtout de votre détermination.